étudiant en géographie et quand on s'engage l'enseignement, c'est pour enseigner la géographie. Bon, oui, hein, mais comme il y a à peu près que 15% d'études de géographes de formation qui réussissent le CAPES, hein, c'est quand même assez limité. Hein. Bon, pour l'histoire, ça joue à plat. Bon, enfin, laissons tomber. Donc, vous savez bien que l'histoire ou la géographie, mais la géographie pour ce qui nous concerne, au collège, au lycée et encore plus à l'école primaire, n'est pas pour préparer la formation de futurs géographes. Mais qu'elle est considérée comme un des moyens de permettre, disons, l'éducation d'adultes en devenir. Hein, à la fois en tant que citoyen, et l'histoire surtout, mais la géographie encore un peu, est beaucoup appelée en tant que formation de citoyen. Hein, elle est, bon, et n'oubliez pas que la France se caractérise quand même, depuis la Troisième République, depuis les années 1880 finalement, par le fait qu'il y a un enseignement obligatoire d'histoire et de géographie. Bon, histoire, c'est très courant. Géographie, comme ça, obligatoire et pas, comment dire, optionnel, c'est assez rare, hein, en Europe et dans le monde. Hein, et ça a été fait pour former de bons Français. Hein. Apprendre ces départements, c'était pas seulement, par exemple, disons, apprendre par cœur, avoir une mémoire, montrer qu'on avait une culture, mais c'est aussi pour s'approprier. Quand on était, je ne sais pas, petit provençal, pour s'approprier aussi les départements de Bretagne. C'était une appropriation. Bon. Alors, ce qui fait que, par définition, disons que les savoirs géographiques, enfin, disons que les savoirs plutôt enseignés en classe de géographie, ne sont pas et ne peuvent pas être, disons, le reflet de la production scientifique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, hein, heureusement, hein, mais c'est ça qu'il faut se dire. Hein. Considérer que l'école, avec un grand E, hein, en gros fait son marché dans toute la production géographique qui existe, en gros, et elle va sélectionner ce qui lui est nécessaire à l'instant T, au niveau, comment dire, au niveau X, etc., etc. Bon. Alors, l'Europe, c'est, disons, un objet qui a de plus en plus envahi, hein, l'enseignement de la géographie. Alors, vous savez que traditionnellement, hein, jusqu'à ces dernières années, le programme de collège était un programme de couverture du monde, encyclopédique. Bon, on étudiait l'Afrique, l'Amérique latine, les Amériques, l'Asie... l'Europe, et en terminant par la France et les colonies, hein, en gros. Et on en a l'adaptation, actuellement, c'est plus la France et ses colonies, hein, bon, c'est, par exemple, en première ou en quatrième, en première ou même en troisième, la France et l'Europe. Bon. Avec une sacrée ambiguïté, quand on parle d'Europe, on ne sait jamais si c'est l'Europe dit continent ou si c'est l'Union européenne. Et quand vous parliez de « on ne voit pas les débats », moi, ce qui me frappe, notamment dans les, comment dire, dans les programmes de première, vous savez que dans les programmes de première, c'est maintenant bien installé, c'est la France en Europe et dans le monde, mais c'est la France et l'Europe. Sauf que de plus en plus, toute interrogation, par exemple, sur les limites de l'Europe, sont totalement escamotées. Hein, c'est trop brûlant, etc. Et c'est en fait l'Union européenne. Et une Union européenne qui va de soi, avec ce, vous voyez, d'où vous parliez de l'aspect technique. Et ça va totalement de soi que se rajoute une contrainte qui est, vous le savez, que le développement durable, c'est une vérité constitutionnelle. Oui, hein, c'est dans la Constitution, hein, bon, et c'est au même niveau que liberté, égalité, quand il y a propriété de la Déclaration de 89, c'est dans la Constitution. Bon. Et donc, il est impossible, théoriquement, de remettre en cause cette vérité juridique. Bon, et j'ai très mal lu les programmes de collège de 2008, et encore moins le programme de première de 2010, donc qui concerne l'Europe, mais quand même, comment est-ce présenté? C'est que l'Europe est en fait un emboîtement de territoires, hein, donc régions, États membres et Union européenne. Quand on dit l'Europe, c'est l'Union européenne. D'accord, hein? Donc un emboîtement dans un contexte de mondialisation. Donc on a les... Enfin, ce qui m'embête d'ailleurs, les emboîtements d'échelles, ce qui me fait toujours pour dire, hein, parce que les échelles ne s'emboîtent pas. Elles s'emboîtent dans des puzzles administratifs, mais ne s'emboîtent pas, comment dire, dans les systèmes économiques, culturels, etc. Hein? Bon, enfin, ils sont tombés. Hein? Donc, c'est bien dit. Hein? Donc, c'est dans un contexte de mondialisation, en faisant rejouer, entre guillemets, là, je cite pas, hein, tout ce que les élèves ont maîtrisé en développement durable depuis la cinquième. Et circuler, il n'y a rien à voir, hein, à ce niveau-là. D'accord? Bon. Alors, comment dire? Donc là, pour plaisanter, enfin, pour plaisanter, non, hein, donc je vous présente une des premières cartographies de l'Europe. Bon, alors il faut d'abord voir que, évidemment, l'Ouest est en haut, hein, puisque la tête, évidemment, de la Dame Europe, c'est nous, hein, c'est l'Europe occidentale. Et que là, on est au niveau, comment dire, de la mer Noire. Hein. Ça va? Mais une Europe, d'ailleurs, qui s'arrêtait, non pas à l'Oural, mais pas mal plus à l'Ouest, au niveau de l'Ukraine. Hein. Bon. C'est clair? Donc c'est 1550, ça, hein, de 25.
C'est en couverture du livre de Fouché.
C'est en... Pardon?
Le livre de Fouché sur fragments d'Europe.
Oui. Il y a plusieurs versions. Oui. Bon, et c'est repris dans le fascicule indépassable qu'a cité Caroline, c'est sur le petit fascicule 460 des cahiers pédagogiques sur... enseigner donc la géographie aujourd'hui. Donc c'est bien. Alors, et ça a été utilisé par des professeurs de Strasbourg. Ça. Alors, je reviens à ça. Bon, entre didacticiens, si vous voulez, hein, bon, il y a ceux qui pensent que par définition, un peu comme les professeurs de mathématiques, il ne peut être de savoir géographique que des savoirs issus du giron scientifique. Et que, de toute façon, chaque fois qu'il y a enseignement, hein, de savoir dit géographique, après on pourra se demander qu'est-ce que c'est que le savoir géographique. C'est pas évident, hein. Bon. Comment dire ? Ça ne peut être qu'une transposition, éducoration, réaménagement de savoir issus de l'université. Ce qui n'est pas totalement vrai. Parce qu'on arrive comme ça à avoir l'émergence, si vous voulez, de savoir scolaire mis dans les programmes dont on a beaucoup de mal à trouver une origine scientifique estampillée. Ne serait-ce qu'il y a quelques années, si on prend la SES, l'ère de puissance. Non, parce que j'avais toujours espéré que François nous écrive quelque chose sur l'ère de puissance. C'est en fait pour lui rappeler, mais on n'en parle plus tellement actuellement, donc il y a échappé, je crois. Bon. Oui. Mais c'était entre nous. Hein, bon. Ne serait-ce que, par exemple, l'étude de cas, au point de vue de la démarche, l'étude de cas telle qu'elle est instituée dans le savoir scolaire actuellement n'a rien à voir avec une étude de cas dans une problématique de modélisation où on essaie de voir un cas, dans quelle mesure l'étude d'un cas peut être prise en charge par le modèle ou pas totalement, etc. Dans un système hypothético-déductiste. Ça n'a rien à voir. Donc il existe des savoirs, je dirais, de géographie scolaire autonome, hein, de l'enseignement universitaire, de la production universitaire. Bon. Mais, et c'est pour ça que là, il y a un petit schéma de Jean-Pierre Chevalier, et ça doit se trouver encore dans Cybergéo, qui C'est très pragmatique, mais en gros, qui me considère qu'il y a quatre pôles de savoir géographique, le grand public, hein, l'école, évidemment, ne serait-ce que tous les systèmes d'aménagement, de recherche de l'Union européenne, etc., qui fabriquent du savoir géographique, et aussi, l'université. Et il a essayé, de pondérer les échanges, mais je suis à peu près sûr qu'actuellement, la géographie appliquée va jouer un rôle de plus en plus important comme stock, je dirais, de savoir géographique à la disposition de l'école, ne serait-ce qu'avec tout le système des SIG, etc. D'accord ? Bien. Alors, mon sujet, c'était de prendre trois... Je pense que je m'arrêterai là, peut-être un quatrième, si je ne peux pas y échapper pour le développement durable. Bon, mais voilà. Alors, le premier sujet, mais que je reprendrai après, c'est où s'arrête l'Europe ? À l'Est, évidemment. Bon. Et là, je suis tombé il y a quelques années. Oui, alors, je vais quand même... voilà. Alors, d'abord, peut-être, ce petit modèle me parle, c'est parce que je pensais, me pense assez utile. Bon, c'est à partir d'un texte d'Odiger, qui a été un didacticien marquant pour analyser ce qu'on peut appeler les pratiques majoritaires. Hein. Bien. Et il dit, un professeur, lorsqu'il prépare ses cours, lorsqu'il les conçoit, lorsqu'il les programme, lorsqu'il essaie de gérer sa classe, eh bien, en même temps, doit dire, ce que j'enseigne, ça doit être quand même, disons, scientifiquement pertinent, et il y a des programmes, d'ailleurs, qui ont expressément marqué, alors ceux de 2010, 2012, je ne vais pas regarder en long, large, à travers, mais les précédents, disaient que l'enseignement de la géographie en lycée devait s'appuyer sur les productions scientifiques. Sous-entendu, alors, les profs disent c'est le vrai, on verra, bien. Mais en même temps, si vous voulez, la classe d'histoire, la classe de géographie, mais surtout du classe d'histoire, mais parce qu'en géographie c'est plus implicite, c'est la classe où on parle du légitime, parce que constamment, même si le professeur ne l'introduit pas, est-ce qu'il est juste qu'on aide les Grecs et les Napolitains qui fichent rien, enfin, etc. Vous voyez, même si le professeur veut parfois assainir et calmer ce qui se passe en classe, évidemment, ça ressurgit tout seul. Alors, notamment, je vous prie de croire qu'enseigner en terminale en 2005, faire abstraction de la discussion sur le traité constitutionnel, c'était à peu près impossible. D'accord ? Bien. Mais c'est vrai que ça s'est enterré, mais il se peut très bien qu'avec le renouveau souverainiste qui vient de toutes parts, ça rejoue. Enfin, bon. Sauf que, ce que je disais, je vais en dire Corée aussi, c'est que l'Europe n'apparaît plus comme une utopie, je dirais, à réaliser positive, mais ça devient une contrainte insupportable. Enfin, je veux dire, voilà, bon. Mais aussi, si vous voulez, le principal souci du professeur, est-ce que mes élèves vont comprendre ? Est-ce qu'ils ne vont pas être largués ? Excusez-moi. Et donc, est-ce qu'il est possible que j'enseigne ceci ou que j'enseigne pas ? Et d'ailleurs, avec des fois, avec beaucoup de bonne volonté, des contresens, parce que quand c'est nouveau pour le professeur, il trouve difficile, il se dit « mes élèves n'y arriveront pas ». Sauf que les élèves, c'est tellement nouveau, sont aussi nouveaux que les traditionnels, donc ça ne leur pose pas forcément les mêmes problèmes. D'accord ? Et puis, de plus en plus, il y a l'idée que l'école, ça sert à aider les adultes en devenir à s'intégrer dans la société. Bon, alors, ce que j'ai fait, à partir de ce modèle que j'ai disons subdivisé. En rouge, c'est en fait ce que l'institution enjoint aux professeurs. Par exemple, l'enseignement de la géographie, ça doit enseigner des clés pour comprendre le monde. C'est pour, dans l'avenir, pour ailleurs que l'école. Mais attention, le vrai a sa logique propre interne à la classe. Ce qui est vrai, c'est ce qui va rapporter une bonne note. Sous-entendu, monsieur, on le note, enfin, excusez-moi, on le consigne dans mon cahier. Hein, est-ce qu'on l'apprend ou est-ce qu'on l'apprend pas? Si on dit, oh bon, vous n'avez pas besoin d'apprendre, considérez que ce sera oublié. Bon, okay. Par contre, si ça va être noté, bon, etc., etc. Hein, est vrai ce qui vaut une bonne note au bac. Et c'est ça, son auto, je dirais, légitimation. Bon, tout comme dans le fameux possible, il y a en gros, est-ce que j'arriverai à, ça c'est un terme de prof, est-ce que j'arriverai à faire passer cette idée? Est-ce que j'arriverai à faire passer ce document? Sous-entendu, la Dame Europe là, de Münster, est-ce que je peux oser le présenter aux élèves ou pas? Bon, ça c'est au niveau, je dirais, interne à la classe. Mais il y a aussi l'idée d'inciter les élèves à avoir le goût des études, tout simplement, le goût de la curiosité, enfin, etc. Ce qui est diablement plus difficile et en fait diablement plus important et qui explique beaucoup d'échecs, parce que de plus en plus, vous avez des élèves qui étudient, enfin, qui veulent bien ça parce que ça leur plaît, ou ça parce que ça leur plaît pas, enfin, c'est très compliqué. Bon, et pareil, il y a évidemment, hein, dans l'utile, c'est l'idée d'une intégration dans la vie future. Mais de plus en plus, il y a aussi, c'est une intégration dans la classe, une intégration dans l'école. Bien s'intégrer aux règles. Bon, vous savez que une grande partie des échecs de passage de troisième en seconde fait que ce sont des collégiens qui n'arrivent pas à comprendre le contrat, je dirais, implicite, non dit. Qu'est-ce que c'est qu'être un élève en géographie, par exemple, en seconde ou en terminale? Même s'ils ont des idées, hein, Témine, par exemple, dont Caroline parlait, a beaucoup essayé d'étudier, mais pour des élèves de collège de ZEB, par exemple, qu'est-ce que c'est que faire de la géographie? En gros, à quoi s'attend-il? Bien. Alors, donc, c'est à partir de ça, mon premier exemple de savoir original, entre guillemets, c'est-à-dire qui prend ses distances avec le savoir académique, hein, d'accord? Bon, c'est... Je vais l'entrer surtout par comment rendre possible, comment faire passer quelque chose qui est dur à avaler. Bon. Et puis après, un deuxième exemple, ce sera, quelle expertise, je dirais, de l'Europe, là, parce qu'il s'agit de l'Europe, hein, je vais aider mes élèves à maîtriser. Et puis une troisième, ce sera, qu'est-ce que c'est qu'être européen? Vous voyez, donc on est... une entrée par le problème qui se posait, c'est est-ce que ça va être possible ou pas. Une deuxième, c'est quel est le vrai véritable territoire européen, hein, parce qu'on est censé savoir comment il est fabriqué à peu près pour pouvoir après s'y insérer. Hein, bon. Et puis après, ça. Et je vous dis, si, il nous reste 2 minutes, mais je ne suis pas trop partant. Bon, bien. Alors, la question, évidemment, c'est les limites de l'Europe. Enfin, évidemment, les limites orientales. Hein. Bon, c'est parce que les rives de l'Atlantique et de la mer du Nord n'ont jamais posé problème. Bien. Alors, vous savez que pendant très longtemps, hein, l'Europe a été présentée comme continent. Mais je vous prie de croire que les programmes actuels parlent aussi de l'Europe continent, dont on ne discute pas des limites. Surtout pas. Donc, on nous dit à la fois, il faut présenter l'Europe comme continent, si j'ai bien lu, je crois avoir lu, hein, bon. Et en même temps, bon, ouais, c'est pas un problème, c'est comme ça, hein, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Union européenne. Hein. Bon. Alors, vous savez que le gros problème, hein, c'est que les élèves, bon, ils ont étudié l'Afrique. Alors, on leur dit, un continent, c'est une énorme étendue de terre entourée d'eau. Bon, c'est l'Afrique, ça marche à peu près. Bon, hein, bien. Ensuite vient les Amériques. Fastoche, pas de problème. Après vient l'Asie. Enfin, l'Asie, c'est pas très grave, puisque on dit il y a la Chine, l'Inde, et puis là-bas, c'est des déserts. Bon. Mais l'Europe, Bon, gros problème. Alors, j'ai pris donc un manuel de 1958. Hein, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Moi, j'étais encore en culotte courte quand même. Hein, bon. Et c'est un ouvrage merveilleux parce que, bon, pour les connaisseurs, c'est un ouvrage qui est totalement post-vidalien quant à la conception de la géographie. Et de très haut niveau. Hein, et avec des professeurs, collection Nathan, je crois, il y avait Moreau, Zouf, Lantéquer, donc Moreau. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est un ouvrage proprement vidalien, et il faut bien savoir que pour les vidaliens, souvent, quand ils faisaient de la géographie régionale, le cadre était un cadre naturel. Ils voyaient le bassin parisien, puis après ils redécoupaient, enfin, etc. Ce qui ne faisait pas dire qu'ils faisaient du déterminisme, hein, bon, comment dire, physique, mais c'est ça. Bon, alors, problème. Voilà, ils sont tout fiers, ils avaient un manuel avec quatre couleurs. Hein, donc, il y a comme ça, c'était une double page, merveilleux. Hein, bon. Or, vous vous rendez compte, regardez, c'est une carte merveilleuse, mais quelle est la différence entre l'Oural et les plateaux du Val d'Aille? Et pourquoi vous mettez la limite à l'Oural et pas au plateau du Val d'Aille? D'ailleurs, Dame Europe, c'est ce qu'il faisait. Hein. Ça pose problème avec des élèves. Bon, qui pense que un continent, ça doit être une vaste étendue de terre entourée d'eau. Bien. Alors, comment dire, ce sont des profs, mais vraiment de très haut niveau, qui veulent des méthodes actives. Hein, d'accord? Bon. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est toujours la même histoire. D'abord, on montre que la règle est vraie. Et évidemment, qu'est-ce qu'on montre? Ben, là où ça coince, c'est-à-dire à Gibraltar et au niveau du Bosphore. Et blanc, hein, vous voyez que ce n'était pas des archaïques. Hein. Bon, vous avez là, alors ça passe assez mal, vous avez une photo donc du Bosphore avec ici donc la rive européenne, au fond la rive asiatique, regardez nous, les autres. Alors évidemment, c'est pris à l'envers, c'est pris du nord vers le sud, hein, vous voyez. Et ce que l'on dit, c'est pas regardez, c'est facile à traverser, mais. Ici, là, chez nous, c'est nous. Hein, vous voyez, hein, c'est l'Europe, et puis là-bas, c'est l'Asie. Hein, donc ça marche. Ouais, mais alors, là, comment ça s'appelle? L'Oural. Ah ben, c'est très simple. Au lieu de. Comment? La carte qui illustre, qui sert de base à cette leçon de présentation, où les auteurs, par exemple, disent bien que l'Oural n'est pas une barrière, qui a des. Il y a les Transsibériens, etc. Non, mais ils jouent le jeu, hein, bon. Alors, voilà ce qu'ils font. Vous voyez, ils discrétisent à 500 mètres. Moins de 500 mètres, c'est blanc. Plus de 500 mètres, c'est assuré. Plus de plateau du Val d'Aille. Finalement, entre l'Oural et les Alpes, quasiment la même chose, c'est réglé. Là, vous avez donc, je dirais, un tout petit tour de passe-passe pédagogique pour rendre acceptable, si vous voulez, cette convention que nous devons à Tatichev et à l'administration de Père-le-Grand. Hein. Vous voyez, c'est typiquement le genre d'arrangement avec le vrai que doit prendre souvent un professeur pour essayer de faire avancer. Bon, alors, disons que mon expérience de tout ça, moi je l'ai eue en animant ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 90, un groupe de recherche action formation. En gros, c'était des inspecteurs de pédagogie, enfin PR, hein, de pédagogie régionaux, qui voulaient renouveler leur stock de formateurs, notamment de prendre des jeunes. Donc, comme j'étais un vieux, j'avais une mission de sélectionner des jeunes, si possible d'ailleurs des historiens, parce que de toute façon, on n'avait pas de géographes. Hein, bon, dans le groupe, on était deux, géographes, bon. Donc, et de les former, et puis d'innover, etc. Bon, et je suis tombé comme ça, et ça a été une découverte, d'aller voir, enfin, de discuter. Parce que le problème de l'enseignant, notamment en lycée, c'est qu'il est seul dans sa classe, et qui discute très peu d'ailleurs, surtout il ne discute pas tellement avec les professeurs de sa discipline, mais avec d'autres professeurs, etc. Bon. Et moi, j'avais une enseignante qui était une animatrice de classe absolument terrible. Hein. Par exemple, quand elle faisait des classements, elle s'arrêtait à 3. 3 parce que ça suffisait, etc. Et je lui disais, mais les élèves ne contestent pas. Il me disait, non, je leur dis, regardez, pour les médailles, il y a médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Pas terminé, c'est ça. Bon, alors, on continue. Là, on passe vraiment à l'important, évidemment. C'est les clés pour comprendre le monde en géographie. Hein. D'accord ? Bien. Alors, et donc, évaluer le territoire européen. Alors, là, je fais un saut de 50 ans. Hein. C'est un manuel, cette fois-ci, de 1998. Bon, mais, c'est, disons, pour ne rien vous cacher, l'auteur de la carte que l'on va voir, c'est un membre de ce groupe, et je sais absolument ce qu'il a comme culture géographique, etc., etc. Parce que quand vous faites de la recherche en didactique de point de vue qualitatif, vous êtes souvent amené à, je dirais, à surinterpréter, à prêter aux gens de... Bon, là, c'est à peu près repéré. Hein. Bon, j'ai même mis son nom, mais c'est pas... Voilà. Bien. Alors, donc... ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, à peu près, il y a eu, je dirais, une véritable politique donc de certains IPR... protégé par certains inspecteurs généraux, pour rénover, non pas seulement pédagogiquement, mais rénover épistémologiquement la géographie scolaire. Ne pensez pas que dans l'éducation nationale française, au moins, l'inspection ait forcément joué un rôle conservateur, retardateur, pas toujours. Hein, je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Bien, alors... Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est que ce qui est arrivé, hein, bon, c'est de savoir, on a commencé à se dire, mais bon sang, qu'est-ce que c'est qu'un savoir géographique? Alors là, si vous voulez, il y a deux méthodes. Bon, il y a des didacticiens, j'avais à le dire, c'est la fin de l'après-midi, qui ont une approche, je dirais, organique de la chose. Ils disent, voilà... Moi, j'observe ce qui se passe en classe de géographie et tout savoir, savoir-faire, savoir-être qui se passe en classe de géographie, j'en déduis que ce sont des savoirs de géographie scolaire. Alors, même si certains vous diront, ben non, c'est de la démographie, genre la fameuse transition démographique, si vous voulez. Ou la pyramide des âges. Bon, la pyramide des âges a sauté, la transition démographique vit sa belle mort, mais vous voyez, bon. Oui. Sauf qu'on en a donné des traductions géographiques en montrant cartographiquement ce que ça donnait. Hein. C'est vrai. Hein. Bon, mais voilà. D'accord ? Bien. Mais, en gros, je crois que ça a été là. L'influence quand même de ce qu'on a appelé chez les géographes l'analyse spatiale. C'est-à-dire que peu à peu, il y a des éléments, et quasiment maintenant, en grande partie, hein, les fondements de l'analyse spatiale qui ont peu à peu été digérés par les programmes. Et je vous avoue que faut rien vous cacher, j'ai arrêté ma carrière en lycée en même temps que l'arrivée des nouveaux programmes de collège. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon vieux, bon, t'as plus rien à faire, t'as passé toute ta vie à étudier l'innovation, maintenant, la géographie pour laquelle tu t'es battu, en essayant d'innover, elle devient la norme, non, t'as plus qu'à partir, parce que t'es un vieux bon. Hein, bon, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, alors, quelle est l'idée, hein, derrière? Bon. C'est que, alors, je suis très prudent, là, hein, c'est que, en géographie, le monde, donc, est... conçu comme une étendue terrestre. Je crois que le terme, c'est étendue. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de distance, s'il n'y a pas de position, ce sont des choses intéressantes, mais il n'y a pas de géographie. Enfin, où la géographie n'a pas grand-chose à apporter. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. Il faut être très, très, très prudent. Bon. Et ça, je dirais que plus en plus, hein, scolairement, c'est admis. Et attention, non pas l'étendue terrestre, ne veut pas dire une étendue uniquement physique, mais quelque chose de aménagé, etc. Donc, finalement, la notion fondamentale, mais qui est prononcée 10, 20, 40, 50 fois dans les programmes, c'est territoire. Alors, attention, hein, une approche, disons, assez sens commun, assez valise, assez... Bon, en gros, un morceau de l'étendue terrestre où il y a des gens qui font des choses et qui fait qu'à l'intérieur de cette étendue, ici, c'est comme là, mais pas ailleurs, mais aussi c'est différent. Vous voyez, hein, c'est pas... Alors, ce qui fait que, notamment, la revisitation de l'usage des cartes en tant que document d'investigation, ça a été par lire ces quantités de cartes en plage, hein, qu'on a bien vu avec vous, hein, c'est-à-dire de voir des étendues où il y a beaucoup, pas beaucoup. Hein, donc c'est avec le vous savez, jaune, orange, rouge, ou alors ici c'est en bleu, ici c'est en vert, donc on différencie. Ou si c'est des plages, on est en gradient. Voilà. Et c'est assez amusant, c'est que dans un premier temps, hein, l'organisation de l'espace géographique est devenue dans les programmes l'organisation des territoires. Ce qui pose un certain petit problème épistémologique. Ben bon, c'est pas très gênant. Bon. Et oui, alors là, j'ai repris quelque chose là que j'ai entrevu dans le programme de première, hein, de septembre 2010, donc normalement en usage, là, c'est ce coup-ci. En fait, aussi, ce qui est arrivé, c'est l'étude multiscalaire, donc, dont vous avez parlé, là, mais qui est vraiment maintenant l'alpha et l'oméga, hein, alors que c'est quelque chose qui n'existait pas dans les 50. Autre chose, le fait qu'on parle de territoire ne veut pas dire qu'on ne parle pas de réseau, alors que, bon, j'ai feuilleté comme ça un certain nombre d'ouvrages des années 30, des années 50. Enfin, je parlais des réseaux après. Bon, alors, par exemple, vous voyez, là, ce sont des gradients. Hein. C'est un ouvrage de base qui a beaucoup marqué de Jacques Lévy sur l'Europe, une géographie. Hein, c'est la fabrication d'un continent. Bon, et donc là, vous avez une carte où, d'après lui, il y a plus ou moins d'Europe. Alors, il a des critères d'européanité, évidemment. On verra après. Hein. Bon. Donc, quand c'est bien noir, c'est vraiment hein, le plus gros gradient. Quand c'est très clair, c'est le plus petit gradient. Bon. On a vu apparaître, si vous voulez, des réseaux et même des cartes en anamorphose. Hein, bon, vous avez là. Alors, ça, c'est un vieux reste de Delors. C'est quand Delors pensait qu'on allait faire un élargissement de l'Union européenne avec une meilleure cohésion, donc, avec des grands travaux de réseau de TGV, etc. Bon, alors, si vous voulez, ce qu'il y a de très différent avec la façon dont c'est vu dans les années 30-40, c'est que dans les années 30, on faisait apprendre aux élèves, de Paris, on peut aller jusqu'à ceci, on peut aller jusqu'à cela. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, sauf, je vous dis, cet ouvrage-là de 1958 qui me paraissait très novateur, il n'y avait pas cette idée du réseau. Mais simplement des liaisons. Il y en avait beaucoup, pas beaucoup. Donc là, c'est quelque chose qui a avancé. Alors, évidemment, hein, bon, là, je vais prendre, c'est tiré donc d'un manuel de 98 manières, mais je vous dis, derrière, ça a été vraiment testé en classe, fait, etc. Bon, vous me croyez sur parole, là, j'y ai même mis le nez, hein, je dirais, en tant que consultant. Hein, bon. Alors, c'est, regardez comment ça fonctionne. Donc, alors, ça vient d'une idée de professeur. Parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques années, bizarre, on a demandé aux professeurs de première de faire réfléchir à leurs élèves sur quelles pouvaient être les limites de l'Europe. Est-ce qu'il y avait des limites? Alors ça, c'était quelque chose de nouveau. Parce que des questions, enfin, des thèmes de programme qui sont des questions, y a-t-il, quelles sont les limites de l'Europe? Y a-t-il des limites en Europe? Ça, c'est rarissime. L'enseignement, c'est on étudie ceci. Mais jamais des questions en géographie. Bon. Et là, j'avais mes profs de collège donc, du fameux groupe dont je vous ai parlé qui ont dit non, c'est pas possible, en collège on sait aussi réfléchir, les questions c'est uniquement pour les lycées, ils ont dit nous aussi on va s'interroger sur les limites par exemple, d'accord. Bon, alors comment ont-ils fonctionné là, hein. Bon, mais ça j'en parlerai après, c'est mon troisième exemple. Bon, Donc, ils commencent par un espace inégalement peuplé, hein, pour répondre à votre question de vendredi sur l'importance des densités, etc. Mais là, bon, en Europe, hein, bon. Et donc, ils travaillent, vous voyez, en plage. Hein. Il y a beaucoup, pas beaucoup, et comme par hasard, il y a une bande qui apparaît, qui va de Glasgow jusqu'à Naples. Hein. Bon, il y a plein de villes, c'est très peuplé. Il y a une deuxième, on est toujours dans ce qu'on appelle un espace topographique, hein. Un espace inégalement développé, et arrive, bon, ce qui fait l'objet, moi, de mon interrogation, cette carte-là, qui est, où on vous parle, effectivement, d'organisation de l'espace de l'Europe. Oui, bon, alors ça, c'est une volonté du créateur. Bon, Jean-François Georges, je peux vous dire, Jean-François Georges, comment dire, à l'époque, il enseignait à Château-Thierry, et maintenant, il est à Strasbourg. Donc, vous voyez, c'est pour faire semblant de donner une preuve. Hein. Bon, alors, vous apercevez que, si vous regardez la légende, on est totalement dans le diptyque centre-périphérie. Centre-périphérie, c'est Alain Reynaud, 1982, espace, société, justice. D'accord ? Bon. Alors, allons-y. Hein. Quand on voit les périphéries, on s'aperçoit que on n'utilise pas les catégories d'Alain Reynaud. Bon, là, je peux. Non, mais on va voir. Hein. Bon. Alors, là, c'est la carte d'Alain Reynaud dans son ouvrage de référence sur donc, le centre, hein, et un certain nombre de périphéries. Ce ne sont pas les mêmes catégories. Là, vous apercevez qu'en quatrième, ce sont des catégories de sens commun. Il y a dynamique, c'est au sens commun du terme. Ça veut dire qui marche bien, qui fait des progrès, etc. Tandis que n'oubliez pas qu'en systémique, la dynamique, c'est-à-dire la mutation d'une structure. Voilà. Bon. Ensuite, on dit une périphérie en difficulté, et puis pour tout l'Est qui n'est plus soviétique, pauvre. Vous voyez, donc c'était catégorie de sens commun. Bon. Alors, si vous regardez, sur quoi est fondé le concept de centre-périphérie de Reynaud ? Bien. C'est sur des relations, donc des échanges, des interrelations entre des portions de territoire qu'il estime centre et des portions de territoire qu'il estime périphérie. Oui, hein, donc ce sont des échanges. Bon, donc échange, je crois, de marchandises, de capitaux et d'innovations, échange d'hommes. Et comme ça, il arrive à toute une série, je crois qu'à la fin, il y a une vingtaine de catégories. Alors, évidemment, là, on est bien dans un enseignement qui est issu d'une production scientifique. Jean-François Georges, je vous garantis que espace, etc., il l'avait lu, et bien lu, hein, comment dire, c'est sans problème. Mais il y a l'adaptation. Bon. Mais ce n'est pas ça qui m'interroge. Regardez son centre, le centre de Reynaud, et le centre de Georges. Il y a eu une dilatation. C'est que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est évidemment la fameuse mégalopole de Brunet. Et chez lui, ce n'est pas implicite, c'est volontaire. Hein. C'est clair. Et qui plus est, vous apercevez que, je ne sais plus si ça doit être quelque part, c'est que, oui, voilà, c'est le titre de ce chapitre, oui. Ça va ?
Il reste 2 minutes.
Oui, il me reste 2 minutes. Vous avez donc un espace dominé par les villes. Et donc, c'est un réseau. Et ça, c'est vraiment l'installation du réseau. Alors, dans les 2 minutes qui me restent, je vais aller tout de suite là. Ah, oui, c'est là. Bien. Alors, c'est les fameuses limites. Bon, alors, c'est un travail qui a été fait dans une classe où il y avait 30 à 35% d'enfants issus de l'immigration turque en Alsace. Hein. Bon. Donc, attention, il y avait plusieurs cartes, mais pour les besoins de la publication, il n'y a qu'une carte. Évidemment, par quoi a commencé la collègue, hein, Catherine Schmelding, pour ne pas la nommer, par les pays qui participent au championnat d'Europe de foot, ça c'est important. Bon, évidemment, la Turquie, ça va, ils étaient intégrés. Oui, mais Israël, oh là là, bon, bien. il y a l'euro. Parce que l'euro, ça veut dire quelque chose pour eux. Les Strasbourgeois, ils peuvent aller en Allemagne acheter quelque chose, etc. Et puis, évidemment, ce ne sont pas les critères d'européanité dont j'ai parlé de Lévy, hein, qui remonte à l'Empire romain, à l'invasion mongole de 1250, à la domination des empires turcs et russes. Là, au niveau de l'instruction civique et de la cohésion de la classe, ça explose, hein, avec une classe où il y a à la fois 30% de gens qui ont des parents immigrés de Turquie et 15% de Serbes qui viennent d'arriver. Vous imaginez que ça donne. Donc, ce qui a été choisi plus doucettement, ça a été donc l'ancienneté de l'entrée dans l'Union européenne et le fait est-ce qu'on est dans l'euro ou pas. Et pour arriver à ce genre de modèle qui explique le plus d'Europe, moins d'Europe, enfin, bon, vous avez là donc ceux qui sont là depuis très longtemps, qui sont tous dans l'euro, ceux qui sont dans l'euro mais qui sont entrés plus tard, et puis ceux qui n'en font pas partie, Royaume-Uni compris. Donc là, on a l'idée d'une Europe gradient, ce qui permet de ne pas être dans le diptyque « nous les autres ». Ça laisse la chose ouverte. Et ça permet de dire n'y a pas de critère absolu d'européanité, mais soyons européanistes. C'est-à-dire, l'Europe, ça se construit, et on est européen si on veut appartenir à l'Union européenne et si les gens de l'Union européenne vous acceptent. C'était vraiment l'articulation du civique et du pertinent scientifiquement. Voilà, c'est tout. Et heureusement, je ne parlerai pas de développement durable. Ça va. Ouais, c'est tout.